Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon midi à tous et à toutes, bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. Aujourd'hui à l'émission, programme un peu plus léger parce que j'ai passé beaucoup d'énergie et de temps à enregistrer une émission spéciale sur la carrière de Francis Ford Coppola, comme je l'avais mentionné la semaine dernière. Je la diffuserai pas en ondes parce qu'elle est beaucoup plus longue que je le croyais, donc un bon 2h30 de contenu qui sera disponible sur Spotify dès cet après-midi, donc vous pourrez aller l'écouter. Je fais vraiment un gros retour sur tous ces films, pourquoi est-ce qu'ils sont marquants ou pas, essayer de tirer un peu des tendances lourdes de la carrière de Coppola. Bref, un gros tour d'horizon dans la foulée un peu de la célébration ou pas là, du nouveau film de Coppola, Megalopolis. On va peut-être d'ailleurs en parler un petit peu tantôt avec Alex Baillargeon qui va venir nous parler de ça et de Joker 2, Joker Folie à 2 en fait, que je n'ai pas vu encore. J'ai revisionné le premier hier et puis... Je suis pas un grand fan du film et je m'attends pas à être un grand fan du second. D'ailleurs, les critiques sont particulièrement moyennes. On pourra en parler un peu plus tard à l'émission. J'ai également un peu plus tard aussi une entrevue que j'ai réalisée avec Félix Rose, le réalisateur de La Bataille de Saint-Léonard, qui est venu nous parler un peu plus tôt cette semaine lorsque le film était en avant-première à la Maison du cinéma. On va parler un peu de ce film-là, de la lutte pour la francisation des écoles à Saint-Léonard, là, ce quartier qui était majoritairement habité par une population italienne immigrante. Je vais vous parler aussi un petit peu du film juste avant qu'on aille au bloc pub. Mais donc, c'est ça. Puis ce sera plus aujourd'hui un petit tour d'horizon là, de ce qui se passe. Un petit topo sur le FNC, sur les prix Iris du Gala Québec Cinéma là, qui ont été annoncés un peu plus tôt cette semaine également. Je commence tout de suite avec une plug un peu gratuite. Il y aura un événement vraiment très cool à la Maison du cinéma, là, soit un programme double de films d'horreur qui mettra en vedette... Nightmare on Elm Street et The Thing, donc le film respectivement de Wes Craven et de John Carpenter, deux maîtres de l'horreur. Il y aura des projections en français et en anglais de ces films-là et je serai votre humble présentateur de ces deux événements. Donc c'est le 26 octobre, c'est le samedi là, en fait, avant l'Halloween. Vous voulez pas manquer ça. Pour vrai, là, c'est cool de voir des films... Des films plus âgés là, sur grand écran. Pour la plupart, ce sera la première fois qu'on va les voir sur grand écran. Ça vaut vraiment la peine. Puis je crois que vous les ayez déjà vus, que vous soyez fan d'horreur ou pas, là, c'est pas de la grosse horreur gore non plus, là, surtout pas pour The Thing, qui est plus, c'est plus du thriller psychologique à la Alien, là, si on veut. C'est vraiment un très beau rendez-vous, très beau programme double. C'est deux films pour le prix d'un, donc ça vaut vraiment la peine. Le 26 octobre, je le répète. Il y a aussi ce soir un événement particulier qui concorde en fait avec la sortie très très limitée du troisième film de la trilogie Terrifier. Donc si vous ne connaissez pas ça, là, c'est vraiment une histoire très, très intéressante. J'avais fait une chronique là, il y a quelques semaines avec Maxence Gagné, mon collaborateur, sur la particularité de cette franchise d'horreur-là qui est crowdfunded, essentiellement. Des films à très petit budget, 30-35 000 $, et qui pourtant réussissent à ramasser des millions à chaque fois. Donc c'est vraiment un exercice un peu de minimalisme puis de liberté aussi, parce que une des raisons pourquoi le projet, même s'il a fait 20 millions... dans les derniers, le deuxième, je pense, avait fait 20 millions au total. Pourquoi est-ce que le film coûte encore si peu cher? C'est que on veut avoir la liberté créatrice de faire ce qu'on veut. Le film est distribué de façon très limitée. On est chanceux de pouvoir le visionner ici à la Maison du cinéma. Il est en salle, je pense, dans une place à Québec, puis une ou deux places à Montréal. Puis vraiment, c'est ça, très, très limité. C'est le premier film coté 18 ans en France depuis, je crois, l'un des Décadences, là, je ne me souviens pas lequel, mais depuis 2006. Donc, ça fait 15 ans presque qu'il n'y a pas eu de film coté 18 ans et plus. Donc, ce qui démontre que le film est quand même assez gore, très graphique et tout. C'est ce soir, il y a un événement spécial dans la salle luxe, mais sinon, le film prend l'affiche là, tout au long de la semaine. Je vais essayer d'aller le voir. C'est un film d'horreur d'Halloween, là, mais qui se passe à Noël. Donc, c'est Art the Clown, qui est quand même devenu une figure relativement emblématique là, du cinéma d'horreur. Maintenant, il y a plein de produits dérivés et tout ça. S'amuse à tuer des gens de la façon la plus gore possible. T'sais, c'est un film d'horreur gore, oui, mais aussi une comédie. T'sais, c'est très ridicule, d'autant plus que c'est très low budget. Mais c'est ça qui fait l'attrait du film. Puis, t'sais, pour moi, ça va avoir l'air bizarre, là, mais t'sais, c'est quasiment du comfort food. C'est vraiment un... Autant j'aime pas tant que ça. Que ça, les films, autant j'y ai repensé beaucoup depuis que je les ai visionnés. Puis j'ai vraiment du fun à les regarder. Faut-tu mettre la switch à off, que t'attendes juste la prochaine scène où il va décapiter quelqu'un, où il va trouver de façon créative de tuer quelqu'un. Tout est joué beaucoup trop gros, ce qui fait que c'est un peu ridicule. Mais c'est le but, puis les critiques sont quand même assez positives pour ce troisième opus-là. Donc, j'ai franchement hâte d'aller le voir. Mais ça ne sera pas pour ce soir, pour moi, parce que la projection, en fait, est complète. C'est ça, le film va prendre l'affiche quand même tout au long de la semaine. Donc, allez voir ça, Terrifier 3 de Damien Leone. Sinon, il y a d'autres films qui prennent l'affiche aujourd'hui. Il y a notamment Saturday Night, le nouveau projet de Jason Reitman sur les débuts, en fait, de Saturday Night Live. Donc, c'est sur la première chaotique de l'émission télé dans les années 70. Un cast vraiment tout étoile. Le film a des critiques somme toute positives, mais pas aussi positives qu'on aurait pu s'y attendre, je crois. C'est ça, tout le monde qui l'a vu ont vraiment bien apprécié la folie, l'exubérance de ce film-là, une espèce de film choral justement avec une grosse distribution. Allez voir ça. Il y a un documentaire aussi sur Christopher Reeves qui s'appelle Superman, Super/Man. Donc c'est sur un portrait un peu de Christopher Reeves, si vous ne savez pas, il a incarné évidemment Superman, mais après ça, il est devenu paraplégique ou quadriplégique. Et puis, c'est ça. Donc, c'est un peu un portrait de sa vie et puis de sa carrière et puis de l'impact de Superman dans sa vie. Sinon, il y a un autre film. On reste dans les figures marquantes, peut-être. Il s'appelle The Apprentice. Pardon. Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça un biopic, là, mais c'est un film sur Trump, essentiellement. Un petit rip-off aussi de son show télé de l'époque. Avec Sebastian Stan, Jeremy Strong. C'est du même réalisateur que Les Nuits de Machad, qui avait, s'il n'avait pas gagné le prix Un Certain Regard à Cannes, en tout cas, il avait gagné un prix quelconque, là, je ne me souviens plus lequel. Mais vraiment un très, très bon film qui était sorti dans les dernières années. Changement de registre quand même assez drastique pour ce réalisateur-là. Je crois qu'il est... soit maghrébin ou libanais, je me souviens plus. Mais bref, le film a vraiment, vraiment des bonnes critiques. Et puis, Sebastian Stan, un acteur un peu méconnu, je crois. Pas méconnu, mais sous-estimé. C'est son time to shine, cette fois-là, en interprétant Donald Trump. D'ailleurs, les producteurs se font poursuivre en ce moment pour sûrement fausse représentation. Mais bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans la vie de Trump? On vient qu'on ne sait plus. C'est ça, c'est toutes ces nouveautés-là prennent l'affiche. Et évidemment, la bataille de Saint-Léonard, comme je vous mentionnais, d'entrée de jeu. Vraiment très intéressant comme documentaire. Félix Rose suit, en fait. Il alterne souvent deux projets en même temps. Là. Il a réalisé Les Roses il y a quelques années, 2019, je crois, ou 2020. Il a fait beaucoup de séries télé aussi, Le Dernier Felkist. Dernièrement, il a fait une mini-série documentaire sur deux groupes musicaux québécois, donc Offenbach et Corbeau. C'est ça, là, il continue son travail d'archive. Apparemment que ce serait une thématique qu'il aurait voulu aborder dans son premier long-métrage, Les Roses, mais qui était trop substantielle pour qu'on puisse en parler en long et en large. Donc, il en a fait son nouveau projet. Donc, c'est sur les crises linguistiques, sur l'enseignement la langue de l'enseignement à Saint-Léonard, un nouveau quartier de l'époque. Donc, le film est campé surtout en 1968-69 et s'intéresse à deux familles, donc les Baronnets, qui sont essentiellement la communauté, ben, la famille italienne qui a construit ce quartier-là, et Raymond Lefèvre, je crois. Qui a été un peu l'architecte de tout ça, mais qui, lui, est issu d'une famille bilingue, si on veut, de côté anglophone, mais qui sont venus s'établir à Montréal, et puis qui était un pro français, alors que Mario Baronnet, lui, était pro école bilingue. Donc, c'est ces conflits-là qui ont... Puis des portraits aussi de famille assez intéressants sur comment la lutte militante peut détruire des cellules familiales, comment est-ce que le militantisme prend beaucoup de place justement dans la vie de ces deux personnes-là. Donc, en plus de contextualiser un peu ce conflit-là. Conflit un peu oublié depuis que l'adoption de la loi 101 là, a été appliquée en 1977, donc presque 10 ans après les conflits qui sont représentés là-dedans, mais documentaire très, très pertinent et qui prend l'affiche à la Maison du cinéma. Donc, allez voir ça si jamais vous ne l'avez pas vu en avant-première parce que l'équipe était de passage mardi dernier. Donc, on va aller en petite pause publicitaire. Au retour, on s'en va écouter l'entrevue avec Félix Rose. Et après ça, on vous parle, on reçoit Alex Baillargeon en studio. On vous parle de Joker 2, peut-être un peu de Mégalopolis. Puis je vous fais un petit topo sur le FNC et sur les prix Iris qui ont été annoncés, en fait, les nominations un peu plus tôt cette semaine. Donc, restez des nôtres.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation.
Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant, ben, j'ai la chance de m'entretenir avec le documentariste et réalisateur Félix Rose qui présente son deuxième film, son deuxième long métrage en fait, La bataille de Saint-Léonard, qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Salut Félix, ça va bien?
Oui, toi, merci de me recevoir à ton émission.
Ben oui, merci de prendre le temps de venir nous voir en studio ici, c'est très apprécié. D'entrée de jeu, je l'ai mentionné, c'est ton deuxième long métrage. Celui-ci s'intéresse à la question linguistique, notamment à Saint-Léonard, là, en banlieue. Ben, maintenant, je pense que ça fait partie de Montréal, mais à l'époque, c'était la grande banlieue de Montréal, où il y a eu plusieurs conflits qui sont peut-être tombés un peu dans l'oubli. D'entrée de jeu, je voudrais peut-être... parce que le film aborde ces questions-là, mais finalement, c'est quasiment plus deux portraits de personnages marquants de ce conflit-là, soit Raymond Lemieux et Mario Baronnet. Je serais peut-être curieux de t'entendre d'entrée de jeu sur comment tu es tombé sur ces deux personnes-là, comment tu les as trouvées, puis qu'est-ce qui t'a intéressé chez eux?
Mais moi, quand je faisais justement le film sur l'histoire de ma famille, Les Roses, mon père, lui, avait milité à Saint-Léonard. Puis moi, un peu, comment je fonctionnais, c'est la petite histoire des Roses et la grande histoire du Québec. Mm-hmm. Puis quand j'arrive à Saint-Léonard, puis là, je découvre l'épisode, je me dis, c'est tellement riche en rebondissements, c'est tellement complexe, je peux pas en faire un chapitre, ça mérite son propre film. Puis dans ma recherche, j'ai rencontré Raymond Lemieux, qui était le porte-parole des francophones. Puis quand j'ai rencontré cet homme-là, qui est un anglophone, mm-hmm. tu sais, qui a grandi à Notre-Dame-de-Grâce, père franco-américain, mère d'origine irlandaise, qui décide de devenir francophile puis devenir le porte-parole des francophones, je me suis dit, waouh, c'est une histoire intéressante, on ne m'a jamais raconté. Cet homme-là a contribué à ce qu'il y ait une loi 101 aujourd'hui, mais il n'est pas dans les livres d'histoire. Donc j'ai fait une entrevue avec cet homme-là, puis il me fascinait. J'avais vraiment une fascination pour lui. Et après cette entrevue-là, il est mort, tu sais, quelques mois après, mm-hmm. assez rapidement, puis il n'y a pas un média qui en a parlé. Donc, c'est comme ça que j'avais rencontré Raymond. Et après, j'ai rencontré sa famille. Et j'ai créé un lien d'amitié avec sa famille qui a duré sur des années, un lien de confiance. Mais moi, je ne voulais pas raconter juste la perspective des francophones. Moi, je m'intéressais beaucoup à la perspective des Italiens. Et celui qui a construit Saint-Léonard, c'est Mario Baronnet. Il arrive, c'était des champs, il n'y avait rien. Puis là, il construit des duplex, tout blanc, avec des lions. Puis tu sais, c'était Ré Saint-Léonard. Et c'est lui qui décide, pour attirer des gens de la communauté italienne, qui deviennent 40% de la population, d'inciter à ce qu'il y ait des écoles bilingues. Parce que les Italiens, ils comprennent qu'au Québec, pour avoir accès au meilleur job, il faut parler l'anglais. Mm-hmm. Mais l'affaire, c'est le système des écoles bilingues, forcément... L'anglais prend un peu le dessus sur le français, puis les francophones qui y vont, quand ils retournent à la maison, ils commencent à être anglicisés, puis les parents n'aiment pas trop ça. Mm-hmm. Raymond Lemieux, justement, il arrive à Saint-Léonard comme architecte, construit un aréna, une église, puis là, il voit ça, puis il dit, mais ça n'a pas de bon sens. On va se faire assimiler, pourquoi personne ne fait rien? Donc, il décide de créer un mouvement qui est une élection scolaire pour mettre fin aux écoles bilingues, et ça marche. Ça fonctionne. C'est la première fois qu'on légifère sur la langue, puis c'est une commission scolaire à Saint-Léonard. Là, au début, ça a l'air d'être une guerre de clocher, mais les Italiens ne prennent pas. Ils disent, ça n'a pas de bon sens. On nous enlève nos droits. C'est un droit acquis, la langue d'enseignement. Puis là, ils disent, OK, on va changer une école anglophone en école, une école francophone en école anglophone. Puis là, ça implique quoi? Que les francophones aillent à Pointe-aux-Trembles, qui n'est pas à côté.
Ouais, ouais.
Donc là, les parents, encore une fois, ne sont pas contents. Ils occupent l'école pendant 5 jours. Ça fait le tour du Québec. Là, les Québécois prennent conscience qu'il se passe de quoi à Saint-Léonard. Et là, ils gagnent. Puis là, encore les Italiens me disent, mais là, on ne peut pas avoir d'école anglaise, on ne peut pas avoir d'école bilingue, on va faire des classes clandestines dans des sous-sols, dans des duplex, chez les baronnets. Puis là, le gouvernement, il dit, mais là, on ne peut pas laisser faire ça, c'est une patate chaude. Donc, au lieu de réfléchir à la situation, qu'il y ait un dialogue, il dit, on va régler ça vite, les Italiens ont raison, on va faire une loi pour le libre choix. Mais là, les francophones disent, ben non, ça n'a pas de bon sens si le gouvernement fait ça, on va se faire assimiler. Puis là, c'est plus une guerre de clochers. Là, il y a des émeutes. Il y a des attentats à la bombe. À Saint-Léonard, ça se bat dans les rues avec des briques, on lance des immeubles, avec des coups de bâton. Les images font le tour du monde. Ça prend une proportion inimaginable parce que là, le gouvernement a essayé d'aller trop vite, puis ça amène à sa défaite. Et ça fait que ça crée un schisme entre les Italiens et les francophones parce que là, les francophones, les Italiens deviennent le bouc émissaire parce qu'on dit que c'est de leur faute. C'est à cause d'eux que le libre choix... Mais tu sais, eux, il y avait la bonne volonté, là. C'était pas contre les francophones, tout ça. Donc, ça crée un schisme. C'est très long. La cicatrice est très longue avant de se refermer. Et le problème est résolu seulement quelques années plus tard, quand le Parti québécois est élu. Et on décide de faire la loi 101 qui fait du français la langue d'enseignement.
Mais pourquoi est-ce qu'on a oublié ces événements-là? Tu parles d'images qui ont fait le tour du monde. Là, on se situe à Saint-Léonard, 68-69, vers la fin des années 60. La loi 101, elle arrive en 77, je crois, exact. 78, après l'arrivée justement au pouvoir du PQ. Pourquoi est-ce qu'on a oublié ça alors que pourtant c'est un peu, d'une certaine façon, la genèse de la loi 101?
C'est drôle à dire. Moi, je pense que souvent, on se souvient des gagnants aussi. On se souvient de la personne qui l'a appliqué. Camille Lorrain est très méritant de l'avoir fait. Mais malheureusement, on se souvient très peu souvent des gens qui ont labouré la terre ou des mouvements sociaux qui amènent ça. Souvent, les politiciens, ils réagissent ou ils corrigent de quoi. Mais ça vient tout le temps d'un soulèvement populaire. Et étant donné que ça se finit mal, Saint-Léonard, parce que le libre choix passe, on oublie un peu l'imaginaire collectif. Raymond Lemieux, Mario Baronnet, même le premier ministre Bertrand, c'est comme vous dites, qui sont évacués de l'imaginaire collectif. Et il ne faut pas oublier que quelques mois plus tard, c'est la crise d'octobre. Qui est tellement spectaculaire avec justement la loi des mesures de guerre, les enlèvements, les chasses à l'homme, que ça apporte un peu d'ombrage à cet événement-là, qui est pourtant très significatif dans notre histoire.
Oui. J'aimerais ça qu'on revienne un peu à Saint-Léonard. Tu sais, je sais que le film ne met pas nécessairement l'accent là-dessus, même s'il y a un chapitre assez important sur Mario Baronnet, comment il a développé ce secteur-là. Mais comment ça s'est développé, Saint-Léonard? Comment est-ce qu'il en est venu, lui, justement, un immigrant de première génération, en fait? C'est ça, un nouvel arrivant qui, tu le montres bien au début, travaille dans les dépotoirs et tout, puis se ramasse finalement à la tête d'une espèce d'empire de construction. Comment c'est arrivé, tout ça?
Mais on dirait que la construction est un thème du film parce qu'il y avait une effervescence culturelle, politique, mais aussi au niveau de l'architecture. Le Québec, Montréal, est en train de se construire. Tu sais, il y avait l'Expo 67, il y avait le métro.
Ouais.
Et il y avait aussi une possibilité à l'époque, c'est moins compliqué de faire de la construction. Baronnet, il a construit une ville en quelques années, puis au début, le monde disait « t'es fou, il n'y a rien dans l'Est de Montréal ». Les banques ne voulaient pas financer, mais lui, il disait « non, non, ça va fonctionner ». Et il avait raison. Puis lui, il avait un rêve, c'est de faire une ville d'Italiens pour les Italiens. Puis il y a des gens, comme on le sait dans le film, qui ont parlé l'italien sans parler l'anglais, le français, toute leur vie, là, ils pouvaient fonctionner parce qu'il y avait des services en italien. Donc lui, c'était ça sa vision. Puis c'est sûr que les écoles bilingues, c'est une façon aussi d'attirer de la communauté italienne. Donc cette ville-là a été une ville qui s'est construite en tellement peu de temps que c'est assez impressionnant. Puis les images qu'on voit dans le film, c'est souvent les réalisateurs, ils n'allaient pas filmer dans l'Est de Montréal ou dans les banlieues. Mais grâce à des recherches, on a trouvé toute la construction de la ville en Super 8, dont avec c'est impressionnant parce que tu vois le métropolitain, puis c'est juste des champs aujourd'hui. Puis tandis que, dans, je dis, c'était juste des champs dans le temps. Puis aujourd'hui, on fait des plants de drones, puis c'est tout des champignons, là, ça a poussé. Là.
Ouais,
très impressionnant.
Est-ce que ça a été difficile de trouver justement ces archives-là? C'est des images, tu sais, très... très banal au final, mais qui servent ton propos, là, mais quoi, c'était préservé à l'ONF? Est-ce qu'il y avait...
Partout. C'est pour ça que le 7 ans aussi, je m'en vais chez particuliers, des gens qui ont conservé des fois des trucs dans leur grenier, puis là, il faut les restaurer. Puis là, je m'en vais dans tous les fonds d'archives, mais souvent, les fonds d'archives, c'est tout le temps les mêmes images que tu vois.
Ouais.
Donc, l'idée, c'est d'aller dans les chutes de montage, aller des trucs qui n'ont pas été catalogués, qui n'ont pas été numérisés, pour trouver les perles rares, pour raconter une histoire. Parce que moi, j'espère que le monde embarque dans le récit comme il regarde une fiction. Pour moi, un documentaire, ça doit pas être forcément toujours didactique. C'est pas juste du monde qui parle.
Ouais.
Tu sais, je veux faire vivre l'époque. Puis ça, les archives aident beaucoup, le voyage dans le temps, pour sentir le bouillonnement. Il y avait un bouillonnement de la jeunesse aussi à l'époque. Mm-hmm. C'est ça que j'essaie de transmettre aussi dans le film, avec les archives.
Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu vas les conserver en quelque part, ces archives-là, que t'as, ben, outre dans le film, là, évidemment, là, mais est-ce que tu as compilé ça en quelque
part?
Oui,
moi, je suis un archiviste. Là, ouais. J'ai mon système, j'ai ma nomenclature. Je mets tout ça sur des disques durs à des endroits différents.
Mm-hmm.
Parce que moi, on disait que l'histoire du Québec, c'est quelque chose que je veux toujours creuser. Puis quand tu ramasses des images d'archives, tu dis, OK, ça pourrait être le film d'après.
Ouais.
C'est ça.
Ben, c'est ça que tu as fait pendant Les Roses, justement. Puis s'il y a un parallèle à tirer, peut-être à tracer entre les deux, ben c'est peut-être à quel point des fois c'est la famille qui mange les contre-coups du militantisme. On le voit dans les deux cas ici avec Lemieux et Baronnet. Qu'est-ce qui t'attirait dans leur histoire de famille? Parce qu'au final, même si Mario Baronnet n'est pas décédé, il participe pas, c'est plus ses enfants qui participent au film. Même chose, c'est les enfants de Lemieux qui participent, même si Lemieux est là un petit peu. Qu'est-ce qui t'intéressait dans leur parcours de vie? Parce que ça aussi, c'est quand même assez important dans ton documentaire.
Mais c'est sûr que moi, je pouvais me reconnaître dans ces deux familles-là. Même si les Baronnet, j'ai pas les mêmes convictions. Le fait, tu sais, que les Roses, tu sais, moi, je parlais beaucoup des conséquences de la crise d'octobre sur la famille en dehors de mon père, mon oncle, ma grand-mère, tout ça. Je reconnaissais ça dans les familles Baronnet et Lemieux. Tu sais, Baronnet, comme je disais, des attentats à bombes. Lemieux, ça brisait la famille. Donc, je pouvais me transposer là-dedans. Puis, je voulais en faire aussi une suite thématique aux Roses. Tu sais, les Roses, c'est une famille. Mais là, je trouvais intéressant de prendre le même concept, mais deux familles différentes.
Ouais.
Mais qui vivent à peu près les mêmes choses, même s'ils ne pensent pas pareil. Je trouvais qu'il y avait quoi d'intéressant là-dedans. Puis j'avais envie de creuser ça.
Une chose qui m'a frappé, parce que c'est sûr que, bon, évidemment, tu n'es pas impliqué aussi directement que dans ton premier film là-dedans, émotionnellement. Est-ce que tu sentais un peu de ressentiment de la part notamment de la famille Baronnet? Il y a une scène quand même assez... un peu choquante, là, un peu dans le film où, justement, on parle un peu de à quel point notre français est pas propre.
Ouais, ouais.
Et tout, puis, tu sais, je sais pas c'est quoi ton parti pris par rapport à ça. Est-ce que t'es pour les écoles bilingues? Est-ce que t'es pour les écoles francophones? Au final, c'est les écoles francophones, au terme de l'histoire, qui vont l'emporter. Mais est-ce que d'une part, pour toi, c'était difficile d'aller à leur rencontre puis de parler de ça? Est-ce que pour eux, c'était difficile? Est-ce qu'ils ressentent encore un peu d'amertume face à tout ça?
Mais moi, c'est sûr, moi, je suis pour la loi 101. Pour moi, c'est une loi importante. Mm-hmm. Mais moi, je voulais me mettre dans la peau de l'autre et comprendre les arguments de l'autre, parce que les Italiens ont raison aussi dans le débat. T'sais. On peut comprendre qu'ils veulent le meilleur pour leurs enfants. L'anglais, t'avais pas le choix si tu voulais avoir un meilleur job.
Mm-hmm.
Donc ça, tout le monde peut comprendre avec ça. C'est sûr que moi, tu sais, au début, tu sais, j'étais inquiet avec la communauté italienne. Tu sais, mon père s'appelle Paul Rose.
Mm-hmm.
Donc, je me suis dit, déjà en partant, je pars de reculons.
Ouais.
Mais Mauro, le fils de Mario Baronnet, il m'a vraiment comme... ça ne dérangeait pas. Puis, ils m'ont accueilli. Ils ont été très généreux avec moi. Puis, quand je les ai rencontrés, Mauro, là, lui, là, je pense qu'est-ce qui différencie de ses frères et sœurs, c'est Mauro, c'était lié à l'école anglaise et tout ça, mais sa femme, c'est une Québécoise. Puis le fait que sa femme est une Québécoise, à un moment donné, il a compris un peu plus c'était quoi l'histoire des Québécois, des Canadiens français, le fait qu'on était opprimés. Il dit, c'est pas des trucs qu'on le savait, nous, forcément, les Italiens. Tu sais. Ils arrivent au Canada, ils arrivent pas au Québec, puis ils sont pas informés de ça. Mm-hmm. Tu sais. Ils apprennent sur le tas, puis c'est
d'autant plus qu'ils sont comme je veux pas dire ségrégés, mais ils sont dans leur quartier avec leurs proches, une espèce de microcosme d'Italien aussi qui fait que, ben, forcément, tu parles de réalité italienne plus que de réalité peut-être québécoise à l'époque, là, même si ça brassait quand même pas mal au Québec, là, mais tu sais, veux pas, si je m'en vais à Paris puis qu'il y a des Québécois, on va pas parler de France nécessairement, on va parler du Québec.
Mais en tout cas, ils ont pas été comme briefés, comme on dit en bon français. Puis tu sais, ils l'apprennent malgré eux, parce que eux, tu sais, tu te mets à leur place, ils arrivent d'un pays qui se remet de la guerre. Ils ont connu la répression de Mussolini. Là, on leur vend l'Amérique comme la terre où tout est possible. La première chose qui se passe, on veut leur enlever un droit acquis qui est la langue d'enseignement. On veut leur dire un peu quoi faire. Ça, c'est le sentiment qu'ils ont. Donc là, c'est pour ça qu'on peut comprendre leur sentiment de révolte. Mais, mettons, du côté de Marot, j'ai pas senti d'amertume et tout ça. J'ai senti beaucoup d'ouverture et de compréhension. La Marinella, qui est une des sœurs, qui elle, a dit qu'est-ce que beaucoup pensent encore aujourd'hui, mais pas juste les Italiens, même des Québécois le pensent, qu'on parle pas le vrai français, puis ça mérite pas d'être sauvé. Je partage pas ça, vraiment pas. Et je réponds un peu dans le film par les belles-sœurs de Michel Tremblay. Ouais. C'était la même année que la crise de Saint-Léonard, où justement, Michel Tremblay, il se dit, c'est peut-être pas la plus belle des langues, mais c'est notre langue, c'est nous. Ça fait partie de nous. Puis il y a une richesse là, dans la parlure québécoise. Là. On a inventé nos propres mots, tout ça. Donc, je pense que justement, dans les années 60, il y a eu, grâce aux artistes, beaucoup, on s'est un peu réhabilité la langue. Mais c'est vrai qu'encore, qu'il y a des gens qui ont le sang et qui ont les préjugés, comme quoi que c'est pas une belle langue et elle mérite pas d'être sauvée. Mais moi, je partage pas ça.
Qu'est-ce que tu espères qu'on retienne de ce documentaire-là? Surtout, je veux pas dire, en ce moment, ces questions-là reviennent, mais quand même un petit peu, là, la protection du français et tout. Qu'est-ce que tu crois qu'on peut tirer de l'expérience du passé pour regarder comment on va agir dans le futur par rapport à la protection du français?
Saint-Léonard, c'est une grande incompréhension. C'est les francophones qui perçoivent que les Italiens veulent les rejeter. Mais ils ne voulaient pas les rejeter, comme je te dis. Eux voulaient l'apprendre, le français. C'était important pour eux d'apprendre le français. Mais il y avait ce sentiment de rejet. Tandis que les Italiens, eux, il y avait le sentiment qu'on leur enlevait un droit, qui était la langue d'enseignement, en comprenant pas toutes les nuances et le fait que notre part de type ne comprenait pas l'oppression des Canadiens français, tout ça. Est un gouvernement qui, au lieu d'inciter à la réflexion, prendre le temps de voir comment on peut trouver une solution, décide d'agir vite, en disant la communauté italienne a raison, le libre choix, mais qui fait que ça monte les francophones contre les Italiens, parce que là, les francophones sont fâchés de ça. Ils ont vraiment peur de se faire assimiler. Et les Italiens deviennent, malgré eux, le bouc émissaire, parce que là, on leur dit que c'est de leur faute à eux, même si à la base, s'il n'y avait pas de mauvaise intention là-dedans. Et ça a créé la crise. Puis là, il y a eu la violence qu'on a connue. Donc moi, je pense que justement, pour pas qu'on revive ça, parce que comme tu dis, on a toujours le même questionnement par rapport à l'immigration, par rapport à l'intégration de la France, le français, c'est qu'on regarde ces épisodes-là, puis qu'on apprenne de ça, pour pas répéter les mêmes erreurs. C'est ça que j'espère.
Ouais. Est-ce que tu as déjà trouvé ton prochain film dans les archives?
J'ai des idées, mais comme je te dis, je suis comme... Là, j'avais fait une série qui s'appelle Offenbach Corbeau. Tu sais, moi, j'en fais toujours deux en même temps. Ouais. Le Corbeau, Offenbach, c'est plus la langue au niveau culturel. Ça, c'est au niveau Saint-Laurent politique.
Le gardien Felkiste aussi, là, que j'avais bien aimé comme série.
Donc, je me donne un peu le temps avant de me replonger dans une autre épopée.
Penses-tu qu'un jour, tu vas aller du côté de la fiction? Parce qu'il y avait quasiment des éléments de fiction là, dans ce film-là. Tu sais, des éléments, du moins, romanesques, si on veut. Là.
Ben, je dis pas non. Peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai bien trop de fun à faire du documentaire.
Ben, profite-en, parce que tu connais un bon succès. Les Roses avaient connu beaucoup de succès. Puis, je suis pas mal sûr que celui-là aussi va en connaître beaucoup.
Ben oui.
Écoute, Félix, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Puis, bon succès à la bataille de Saint-Léonard qui prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Merci beaucoup, Félix.
Merci à toi.
Un jour, je vais faire un scénario. Il n'y a pas du tout de trajet.
Ah, toujours sympathique. Ce Félix, je rejoins Alex Bergeon, qui lui aussi a passé Félix en entrevue cette semaine. Ça va, Alex?
Oui, ça va super bien, toi.
Ben oui, ça va bien, merci. Écoute, je t'ai fait venir comme un correspondant spécial parce que t'es toujours celui qui est le plus rapide sur le gun pour regarder les nouveautés. Souvent, tu te garoches le jeudi soir dans les salles obscures pour aller voir ces nouveautés-là. Bon, Joker, t'as pas fait ça. T'as pris la sage décision d'attendre le mardi.
Ben, c'est quand même la première fin de semaine. Fait que c'est pour ça que c'était surprenant, parce que pour en avoir parlé à ma propre émission aussi, j'étais le seul dans la salle et il est sorti le vendredi d'avant. Fait que normalement, ce genre de film-là, devrait y avoir plus de monde, mais le public est pas au rendez-vous en ce moment.
Le public est pas au rendez-vous, notamment, probablement à cause des critiques très, très tièdes du film. Tu sais, le premier avait pas coûté aussi cher qu'un film DC normal. Là. Je me souviens plus si c'était 60 ou 80 millions. Tu sais, un budget assez respectable. Tu sais, il avait fait tout près d'un milliard, peut-être même un milliard. Là, c'est comme l'inverse. On a injecté, je pense, 200 millions dans le projet. Puis premier week-end, 40 millions. Fait qu'on est ça va prendre plusieurs week-ends. On va prendre plusieurs mardis à 5 piastres pour rentabiliser ça. D'entrée de jeu, là, le premier Joker, est-ce que tu l'avais aimé?
Le premier, oui, parce que justement, c'est un peu une espèce d'univers qu'on connaît, tu sais, Batman, mais tu sais, de le réinventer une nouvelle fois. Puis, me semble de mémoire, le passé du Joker de cette manière-là, on l'avait pas fait souvent, tu sais, pour expliquer un peu comment qu'il tombe dans sa folie, puis tout ça, tu sais, on y revient aussi souvent dans le 2, mais tu sais, sa mère qui l'haït, le monde autour de lui qui le trouve weird. Fait que, tu sais, au fur et à mesure, puis le premier film se finit avec comme The Rising of the Joker, mais dans le 2, il essaye tellement de le tuer le plus possible. Il médicamente, il est un peu downer, puis finalement, ce n'est pas le personnage que l'on croit qu'il est. Fait que c'est comme, ils ont comme tout renié du premier film pour en faire une nouvelle proposition, mais comme tu le dis, ça a juste coûté cher plus que d'autres choses, parce que le monde...
Ouais.
N'embarque pas dans la proposition.
Ben, tu sais, ça a surtout coûté cher aussi parce que les acteurs ont demandé cher. Là, Joaquin Phoenix, il a gagné un Oscar pour le premier Joker.
Ouais.
Lady Gaga, ben, elle coûte cher là, parce que même si elle n'est pas toujours dans des bons films, ben, elle attire un public quand même.
C'est vrai.
Mais moi, je n'étais pas le plus grand fan du premier. Tu sais, je t'avoue que je trouvais beaucoup que c'est des phrases philosophiques à deux scènes, puis une étude de personnage.
Ouais, je
trouvais intéressant d'essayer de rationaliser, on va dire, l'espèce de condition ou trouble mental qui l'afflige, mais il n'y avait rien qui m'avait vraiment jeté à terre, sauf peut-être vers la fin où là, je trouvais intéressant un peu les réflexions sur comment est-ce que ça naît une espèce de cult following ou des affaires de même. Donc là, si on regarde un peu le 2, on arrive directement après les événements du premier, c'est ça?
Oui, c'est ça, on arrive, c'est 2 ans après, donc il est en hôpital psychiatre, c'est Arkham.
Fait que, ouais, c'est ça.
C'était un hôpital, en tout cas, on repassera pour le bonheur à Arkham.
Ouais.
Puis, c'est ça. Fait qu'il est médicamenté, il est calme, tu sais, les gardiens, les cœurs, eux autres aussi, hey, fais-moi donc une petite joke.
Ouais.
Puis.
Je sais déjà que j'aimerais pas ça.
Fait que, tu sais, puis, il y a une rencontre qu'il doit faire avec son avocate, puis pour aller à cette rencontre-là, il passe devant un cours de musique. Pour justifier que Lady Gaga est là, est dans le cours de musique. Puis, pour aucune raison que ce soit, son gardien attitré, il fait comme « Hey, je t'ai trouvé une place dans le cours de musique. » Mais il n'a rien demandé. La base, toute l'intrigue de ce film-là, souvent, il y a des mèmes de « Si t'interromps une scène, le film se finit complètement. » Ben, c'est exactement ça. C'est comme le gardien ne lui trouve pas de place dans le cours de musique et il n'y a pas de film. Mais c'est pas justifié. C'est un gars qui a quand même tué 6 personnes, dont une en direct à TV. Ah, tiens, on va lui donner un goodies, on va le laisser aller chanter au Happy Day avec tout le monde. Fait que déjà là, ce bout-là, il est un peu flou. Puis de là décline justement qu'il rencontre Lady Gaga, qui est comme plus fan que d'autres choses. Là, après ça, c'est pas clair. Es-tu elle aussi une patiente ou ouais, c'est juste. Elle a réussi à se faufiler pour être capable de le voir, lui. D'où, justement, l'intrigue de est-ce qu'elle veut vraiment son bien ou, finalement, c'est elle, la vraie méchante, qui contrôle Joker. Parce que, dans la genèse de ces deux personnages-là, Joker veut impressionner Harley Quinn, puis son le respecte dans ce film-là. Mais après ça, bon, c'est ça.
Parce que là, c'est ça, tu sais, le gros attrait du film, c'est même avant que le tournage commence, il avait dit, ça va être un musical, on a Lady Gaga. Comme tu dis, on essaie de faire une proposition qui est complètement différente du premier. Ce que j'aime sur papier, tu sais, j'aime ça qu'on reste pas... tu sais, souvent, c'est pour ça que j'aime toujours le premier film d'une série, mettons, plutôt que la suite, parce que la suite, c'est du fanservice. C'est comme, OK, vous aimiez ça, ben on vous le redonne, mais un peu différent. J'aime sur papier, en théorie, qu'on essaie d'aller champ gauche. Ouais. J'étais comme, bon, OK, comédie musicale, Joker, je pense pas que ça... Je vois pas pourquoi on irait aussi champ gauche. Parle-nous de ça. Parle-nous de l'aspect musical du film.
Ben, c'est qu'ils ont essayé de le justifier justement parce que le titre Folie à deux, Folie avec Harley Quinn. Bon, ben, Joker, il est fou. Fait que pour une raison ou une autre, dans sa tête, ça se passe en chanson. C'est de même qu'ils tentent de justifier de faire des comédies musicales parce que, puis ça, c'est ce qu'on peut peut-être reprocher, c'est que des fois, on n'est plus certain si on est dans sa tête ou si on est dans la vraie vie. Est-ce qu'il est en train de s'imaginer que tous ses co-détenus chantent avec lui et jouent de la musique ou il est encore devant la TV en train de cacher tout le monde puis ironiquement, c'est Pépé Le Piou qui est sur la TV puis qui lui aussi n'a pas eu ses heures de gloire dans les dernières années. Fait que ça, je trouvais drôle que ça soit le seul Looney Tunes-là qui était choisi. Mais en même temps, c'est la grande boîte Warner qui peut se permettre d'avoir des images de d'autres choses. Fait que, c'est ça, on tente de...
C'est bien utilisé.
Non. C'est pas bien utilisé parce que, tu sais, normalement, en tout cas, à mon avis, une bonne comédie musicale, il faut que les chansons servent l'histoire. Puis dans ce cas-ci, on force un peu l'utilisation de ces chansons-là pour les intégrer à l'histoire, tu sais, comparé, mettons, à d'autres comédies musicales comme un Mamma Mia, qu'on prend les chansons et on extrapole une histoire à travers ces chansons-là. Dans celle-là, j'ai plus l'impression qu'on avait comme une banque de chansons. Comment des chansons d'amour, des duos d'amour, etc. Comment on réussit à plugger ça dans le film pour que ça fasse un minimum de sens? Puis, encore une fois, comme on est dans sa tête, ben il y a littéralement une scène où il ferme les yeux. Il s'imagine tout ce qui se passe. Et ironiquement, ces scènes-là sont dans le générique. Pas dans le générique, mais dans la bande-annonce. Puis finalement, ben, il rouvre les yeux et rien de tout cela ne s'est produit. C'était un numéro musical dans sa tête. Fait que, ça fait pas avancer l'histoire. On comprend que c'est parce qu'il est pas bien dans la situation actuelle, fait qu'il se réfugie dans sa tête. Quelques scènes vont fonctionner, mais c'est réellement aussi arrivé pendant le film qu'ils sont en train de discuter tout à fait normalement, puis out of the blue, Joker se lève, puis « And now », puis là, il se met à chanter, puis ça n'a aucun rapport. Fait que, tu sais, oui, musical, mais ça n'a pas fonctionné. T'sais, on essaie de vendre ça comme un drame psychologique tout en étant une comédie musicale qui sont deux genres totalement différents.
Ouais.
Fait que c'est pour ça, ça se mélange mal.
Ouais. Puis est-ce que tu penses que, ben, tu sais, au final, il y a cet aspect-là, plus de feeling qu'autre chose. Et au niveau de la trame principale, il se passe de quoi d'intéressant?
Ou... Ben, l'histoire en tant que telle est correcte. Tu sais, justement, l'espèce de. L'idée, justement, d'avoir. Est-ce que c'est le culte qui nourrit Joker ou Joker qui nourrit le culte? C'est une proposition intéressante. Mais encore une fois, parce que justement, c'est... Non, la musique a plus ou moins un rapport là-dedans. C'est surtout au procès que justement, là, Harley Quinn, elle pousse de « Hey, ton avocate est pas fine, elle veut pas vraiment que tu sortes de prison, nanana, tu devrais te représenter toi-même pour que Joker soit l'avocat dans ton procès. » Fait que tu sais, il y a cette espèce de... d'idée-là, justement, des deux personnalités d'Arthur, puis justement, l'avocate est comme, non, c'est parce qu'il est, dans sa tête, il est aussi le Joker, fait que le Joker, c'est comme sa deuxième personnalité, fait que c'est comme l'espèce de plaidoirie de folie qui tente de justifier dans le bout du procès, mais c'est ça, quand il devient son propre avocat, ben là, c'est ça, il tente de faire du Joker, mais là, il comprend maintenant que, il a peut-être mal agi, finalement. Puis là, il est comme... Ah, mais là, Joker, c'est peut-être pas une bonne chose, finalement. Fait que là, ses fans sont comme... Bouh! Puis ils quittent la salle. Fait que, tu sais... L'idée est intéressante. Mais après ça, justement, ralenti par tous les numéros musicaux, ralenti par, justement, Harley Quinn, es-tu bonne? Es-tu mauvaise? Est-ce que c'est le personnage canon ou c'est la version de Lady Gaga? Tu sais, tout ça aussi est mélangé. Fait que... Mais tu comprends que oui, elle joue dans tête parce que finalement, elle est peut-être pas si folle que ça non plus. Fait que pour ça, ça fonctionne.
Ouais.
Mais deux heures et quart de ça, il y a des bouts longs.
Ouais. Rapidement, j'ai deux questions. Le premier film avait été reconnu, évidemment, pour l'acting de Joaquin Phoenix, puis pour l'aspect technique, le temps visuel que la musique, d'ailleurs, avait gagné l'Oscar de meilleure musique. Est-ce que c'est le même type d'ambiance, là? Ben là, il y a plus de musique, on s'entend.
Oui, il y a plus de musique. Ben oui, tu sais, le Gotham est quand même beau, là, tu sais, mais c'est sûr qu'on est dans des lieux clos, veut pas, parce que c'est le procès ou l'asile. Fait que... on explore un petit peu moins Gotham que dans le premier, mais justement, parce qu'on connaît l'univers, entre guillemets, on est capable de se replacer, puis Joaquin n'est pas si mauvais non plus. T'sais, lui aussi souffre du fait que l'histoire est moyenne, mais en tant que tel, puis lui, il chante pas super bien non plus. Fait que c'est pour ça qu'à côté d'une Lady Gaga, qui est une chanteuse professionnelle, ça clash un petit peu dans les duos d'amour, mais en tant que tel... ils s'en sortent bien. Il y avait des vidéos qui circulaient de Joaquin qui avait l'air découragé à la fin de la première du film en Italie. Après ça, ils ont rajouté des sous-titres de ce que c'est les bons. L'histoire ne dit pas que lui-même était comme « C'est ça le film pour vrai? » C'est comme Parce que petite anecdote rapide, normalement, il y a des visionnements de public, des screen tests qu'on appelle, puis celui de Joker, ils ont volontairement omis ça et ils ont envoyé directement le film en salle. Comparativement à un Acme, à un Bad Girl, qui les deux ont été flushés avant leur sortie, qui avait été vu par du public, qui avait été apprécié, Joker aurait peut-être mérité d'avoir été vu avant d'être mis en salle parce que il y a plusieurs trucs que tu fais comme « Ah ouais, ils décident d'aller là. » Puis surtout la fin, ils introduisent un autre méchant de Batman que tu fais comme « Ah ouais, puis il arrive ça, puis ça donne, ça donne plus ou moins une chance à un troisième. » En même temps, le deuxième marche tellement pas que c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas de troisième.
C'est ça, c'était ma dernière question de comme « Est-ce qu'il y a un troisième? » Parce que l'histoire a l'air de faire du surplace.
Le premier, il se finissait bien. Justement, avec le réveil de Joker, ça faisait une belle fin. Le 2, c'était dans un but de faire de l'argent qui finalement marchera pas parce que le monde aime ça comme une musicale, mais pas tant que ça non plus. C'est pas le genre numéro 1 non plus. Puis, c'est ça. Normalement, il laisse pas de place à un troisième avec la fin du 2. Il y a un moyen de twister ça pour être capable d'avoir un troisième film, mais t'as vu que ça marche pas au box-office.
Ouais, c'est ça.
Les chances sont assez minces d'avoir un troisième, de faire une trilogie avec ça. Quoique, sait-on jamais, peut-être dans 10 ans, ils vont se trouver une idée géniale pour justifier un troisième. Mais là, Joaquin risque d'être un petit peu trop vieux pour jouer.
C'est ça.
Pour jouer ce
Joker. Maigrir
encore plus.
Ben, je vais attendre que ça droppe sur Crave / HBO.
Il faut attendre que ça sorte un après-midi qui n'a pas grand-chose à la télévision. Ouais. Ça risque de se ramasser là plus que d'autres choses.
Bon, ben, génial. Ben, merci beaucoup, Alex.
Ça fait plaisir.
On se reparlera éventuellement parce que c'est ça, t'es mon pusher de films Pixar et de nouveautés. Fait qu'on se rejase. On s'en va en pause publicitaire de notre côté, puis au retour, je vous fais un petit topo sur le FNC et sur les prix Iris. On revient.
Un jour, je vais faire un film, il ne sera pas long. Quelques petits moments, collés les uns aux autres sans narration.
Je voudrais terminer l'émission en vous faisant un petit topo du Festival du Nouveau Cinéma là, qui s'est amorcé là, avant-hier, le 9, mercredi le 9. C'est amorcé bizarrement un peu parce que la projection du film d'ouverture, qui est Une langue universelle de Matthew Rankin, a été interrompue pour des problèmes techniques. Donc, elle n'a pas eu lieu finalement, cette première. Plutôt, elle a eu lieu, mais 15 minutes de temps après ça, la première a dû être annulée. Mais je veux vous faire un petit topo des films incontournables si jamais vous êtes de passage à Montréal pendant le festival. C'est toujours une belle occasion de faire du rattrapage de cinéma international ou peut-être de voir des films en avant-première, notamment la dernière Palme d'Or, là, mais c'est ça, de faire un petit peu de rattrapage sur des festivals qui sont déroulés cet été et de préfigurer là, ce qui s'en vient sur sur nos écrans l'automne et l'hiver. Donc, c'est incontournable selon l'article de la presse. Donc, c'est Une langue universelle, comme je mentionnais, de Matthew Rankin, qui est d'ailleurs la soumission du Canada à l'Oscar du meilleur film international. Matthew Rankin, qu'on connaît pour 20th Century, qui est un film vraiment très particulier là, à la Terry Gilliam, très fantaisiste et tout, qui était une biographie très romancée de mon Dieu, quel premier ministre canadien, je me souviens plus. C'est Mackenzie ou Mackenzie King, bref, c'est ça. C'est très, très bizarre comme proposition. Là, cette fois, il retourne dans son Winnipeg natal et puis il parle d'une famille immigrante qui arrive au Manitoba. Donc voilà, il y a une famille famille de Christine Ango qui revient en fait dans le roman Le voyage dans l'Est sur les viols répétés qu'elle a subis dès l'âge de 13 ans. Un documentaire très très difficile qui je crois qu'il avait été à Cannes aussi, mais je ne suis plus trop certain. Mais c'est un documentaire très très dur, mais qui promet de faire jaser. Ça va être présenté le 12 octobre à 18h30 et le 16 octobre à 20h. Sinon, il y a Les graines du figuier sauvage aussi, qui lui avait gagné le prix spécial du jury, donc le deuxième prix à Cannes. C'est de Mohamed Rasoulof, puis qui parle en fait de l'assassinat à Téhéran en 2022 de Mahsa Amini. Une jeune femme de 22 ans arrêtée pour port du voile inapproprié. Ça aussi fait beaucoup jaser sur la croisette en mai dernier. Il va être à l'affiche en fait le 13 octobre à 17h à l'Université Concordia et le 19 octobre à 20h au cinéma du Musée. Il y a également All We Imagine as Light de Payal Kapadia qui avait gagné lui aussi le grand prix du jury au Festival de Cannes, qui la cinéaste indienne, je crois que c'était la première indienne à avoir gagné ce prix-là, ou la première en je ne sais pas combien d'années, mais vraiment un film de fiction, un premier long-métrage de fiction pour elle qui fait beaucoup de documentaires, là, qui s'intéresse aux disparités économiques, les classes sociales et de genre en Inde, ainsi qu'aux tensions religieuses, présenté lundi prochain, le 14 octobre à 16h15 et le 20 octobre à 16h30 au cinéma du Musée. Sinon, il y a Bird d'Andrea Arnold aussi, là, qui a fait beaucoup jaser à Cannes, tout comme Anora également, là, qui est la Palme d'Or. Et je termine avec Dahomey de Mati Diop, qui, elle aussi, avec son premier long-métrage Atlantique, avait gagné le prix du jury à Cannes en 2019. Donc, tous ces films-là, allez consulter la programmation du FNC. Là, ça promet d'être assez intéressant encore cette année comme festival. Sinon, ben, je veux faire un petit topo justement sur le Gala Québec Cinéma qui a annoncé un peu plus tôt ses nominations. J'attends juste d'ouvrir l'article. Vampire humaniste cherche suicidaire consentant qui mène la course à l'Iris avec 22 nominations. Il y a aussi Simple comme Sylvain et 1995 qui ont récolté quand même une bonne part de nominations. Je ne sais pas si j'ai la liste devant moi. Il y a vraiment là pour le prix du meilleur film. En fait, on commence avec le prix Michel Côté, là, qui est un vote du public, donc vous pouvez aller voter. Il y a 5 films, c'est les films là, habituellement les plus populaires, soit au box-office ou soit dans la population en général. Donc, les 5 films en nomination, ben, c'est Rue, c'est Simple comme Sylvain, Nos belles-sœurs, Testament et 1995. Donnez-le pas à Testament, s'il vous plaît. Mais sinon... au niveau des nominations, on a pour la catégorie meilleur film. Voyons, pourquoi? Je suis pas capable de... L'Internet ne fonctionne pas. Je ne sais pas si vous avez des problèmes d'Internet, vous aussi, sur le campus, là, mais ça fait un petit moment déjà qu'on a des petits problèmes d'Internet. Mais bref, comme je disais, Vampire humaniste a 22 nominations, notamment meilleur film, notamment meilleure actrice, meilleure actrice de soutien, meilleur scénario, meilleur premier film également. Bref, c'est ça. C'est le film qui en sort le grand gagnant. Après ça, il y a Simple comme Sylvain qui est allé chercher 14 nominations, donc notamment pour Magali Lépine-Blondeau, Pierre-Yves Cardinal, pour les aspects techniques aussi. Bon, c'est sûr que comme elle a remporté devant Oppenheimer le César du meilleur film international, il y a peut-être des bonnes chances que ce film-là score assez fort au Gala Québec Cinéma. Gala qui va être animé d'ailleurs par Phil Roy et Mona de Grenoble là, qui succède à Jay Dutemps l'an dernier. Sinon, 1995 aussi tire son épingle du jeu, 11 nominations, notamment meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario et le prix Michel Côté, comme je l'ai mentionné. Sandrine Bisson est toujours en nomination, évidemment, comme actrice de soutien. Sinon, il y a Richelieu de Pierre-Philippe Chevigny, qu'on avait reçu quand le film est sorti là, au début de l'été dernier. Et Solo de Sophie Dupuis, là, qui talonne de très près avec 10 nominations. Et puis Rue aussi de Charles-Olivier Michaud récolte 8 nominations, notamment pour Révélation de l'année pour Chloé Janji. Ababouiné aussi récolte 7 nominations. Puis sinon, ben, dans les films notables à être en nomination, ben, il y a aussi Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Nos belles sœurs aussi pour les aspects techniques du film. Est-ce qu'on a déjà annoncé? Non, je ne crois pas. On n'a pas annoncé encore qui recevra le prix hommage, mais ça promet d'être assez intéressant. L'année dernière, c'était Rémi Gérard là, qui avait fait un très, très beau discours. Voilà, le Gala Québec Cinéma, mais ce sera le 4 décembre. Il va être présent... le 8 décembre. Le Gala des artisans est le 4 décembre. Et le gala télévisé sera le 8 décembre en direct sur Nouveau. Puis souvent aussi, ils proposent une plateforme là, pour faire du rattrapage de films québécois en nomination. Donc, restez à l'affût. Je vous ferai un petit topo là, quand les annonces en ce sens auront lieu. Mais c'est le temps là, maintenant de faire du rattrapage dans la dernière année de cinéma québécois, qui était une très bonne année, encore une fois, peut-être moins bonne que l'année dernière, juste parce que les périodes de nomination sont un peu bizarres. Là, en théorie, Simple comme Sylvain devrait compter pour l'année dernière, puisqu'il est sorti là. Mais en tout cas, les périodes sont un peu bizarres de nomination. Il y a même les Chambres rouges qui sont à nouveau en nomination, mais cette fois pour s'être illustré en dehors du Québec. Là. Le film est d'ailleurs allé à je me souviens un peu quel festival aux États-Unis, mais il commence à faire parler de lui beaucoup aux États-Unis. Bref, c'est ça. Donc, la période est un peu bizarre, ce qui fait qu'on a des films qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, puis des films qu'on dirait que ça fait une éternité qu'ils sont là. Mais n'empêche, c'est une bonne période pour faire un petit peu de rattrapage avant que les gros films aux Oscars là, arrivent au courant des prochains mois. Donc, voilà, c'est pas mal ce qui conclut cette émission d'une heure. Je vous l'avais dit, donc, notre émission spéciale sur Francis Ford Coppola sera disponible un peu plus tard cet après-midi sur Spotify et sur le CFAQ.ca. Pour justement aller faire un peu cette rétrospective de ce cinéaste marquant de l'histoire du cinéma. Donc, je passe vraiment en détail chacun de ses films et des thématiques qu'il aborde. Puis, on essaie de tirer des tendances lourdes. Donc, ça promet d'être assez intéressant. Je vais faire des topos spéciaux comme ça, peut-être une ou deux fois par année. Là, j'ai déjà comme projet d'en faire un sur Stanley Kubrick, là, peut-être plus cet hiver. Donc, restez à l'affût. Et sinon, on recommence tranquillement à être actifs sur les réseaux sociaux. Donc, allez nous suivre sur Facebook, sur Instagram. Merci beaucoup d'avoir été présent cette semaine à Ciné Histoire. On se retrouve la semaine prochaine, même en même poste, pour un autre épisode. Salut!